J'espère que ça nous laissera quand même du temps pour des questions. Hein, voilà. Donc, je vais, comme je suis un professeur normal, je vais traiter le sujet. Hein, comme vous savez, en général, on vous reproche de ne pas avoir traité le sujet dans les dissertations, je vais traiter le sujet. Et donc, je vais commencer par poser la question au sens large, et ensuite, je me concentrerai un peu plus sur certains aspects. Je vais juste essayer de prendre une montée. Voilà, c'est bon. Ah non, il est mieux. Oui, il est peut-être plus simple. Parce que là, je vais le couper. Que font les artistes? Je prends le sujet de manière... ils font beaucoup de choses à la fois, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est important, c'est d'identifier tous les aspects de la question pour ensuite se concentrer sur ce qu'on veut envisager. Donc, que fait un artiste? D'abord, il fait quelque chose, il pratique son art, que ce soit un art majeur ou que ce soit un art mineur, hein, parce qu'il y a des arts majeurs qui sont bien connus, l'architecture, la peinture, etc. Puis il y a des arts mineurs qui sont... les arts populaires par exemple, les arts décoratifs, etc., qui sont mineurs, donc il pratique son art. Communément, c'est ce qu'on appelle une activité poétique. Bon, poésie vient de là, hein. Poétique, ça veut dire faire, poiein en grec, c'est l'activité de la fabrication. J'indique ça parce que pendant très longtemps, c'est assez intéressant de garder toujours en tête, pendant très longtemps, on a beaucoup parlé des arts du point de vue strictement de la poétique. Hein, une question de comme celle qu'on traite aujourd'hui, que font les artistes dans la société, ça n'intéressait personne. Ce qui intéressait les artistes, c'était comment les choses se font. Hein, comment les choses se font, les recettes de cuisine en quelque sorte. Pratiquement jusqu'à la Renaissance, une grande partie des réflexions sur l'art sont des réflexions sur la manière de le faire, sur la cuisine. Il y a un livre qui s'appelle « La poétique d'Aristote ». Où il s'interroge sur la manière dont on fait des tragédies, des comédies, et de la poésie. Pendant très longtemps, on s'est occupé surtout de l'activité poétique. Bon, deuxièmement, que font les artistes? Eh bien, ils gagnent leur vie, s'ils ont une activité économique. Quelquefois, ils gagnent leur vie en étant plus ou moins salariés, ou en ayant des commandes, ou en étant entretenus par des collectionneurs, par des princes, etc. Je passe là-dessus, c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Bon, ils produisent des œuvres pour des publics, qui sont des publics réels ou des publics pas plus ou moins virtuels. Quand vous écrivez, vous ne savez pas trop par qui vous allez être lu, par exemple. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'activité artistique ou esthétique, si vous voulez. Quand on se pose la question de comment les gens vont recevoir, quel effet je vais faire sur les gens quand je fais mon œuvre, quand je peins ma peinture, etc. On n'est pas obligé de se poser cette question. Quelqu'un peut très bien, pas plus tard que la semaine dernière, je suis allé voir un peintre qui habite au 6e étage sous les toits de Paris. Visiblement, pour qui il peint, c'est pas sa préoccupation principale. Bon, il se trouve quand même qu'il va avoir une exposition, mais vraiment, il peint d'abord pour peindre, pour pratiquer son art, donc pour la première rubrique, si vous voulez, pour l'activité poétique. Bon, bien évidemment, dernier point, les artistes, ceux qui font de l'art, produisent des effets dans la société. Ils ont un impact social, il y a des conséquences sociales. Ça peut choquer, ça peut enthousiaster, ça peut divertir. Il y a toutes les formes de l'impact social. Donc j'ai réénuméré activité poétique, activité économique, activité artistique ou esthétique et activité sociale. Ce sur quoi je vais me concentrer, c'est ce que font les artistes dans la société, donc leurs effets artistiques et leurs effets dans l'activité sociale. Je me concentrerai là-dessus. Quelques mots maintenant sur la production des œuvres. Ça, c'est important. Qu'est-ce que c'est que produire des œuvres? D'abord, ce que je veux signaler, c'est que c'est pas toujours des œuvres. Hein. On a l'idée qu'une œuvre d'art, c'est une sculpture, c'est une peinture quelque part, ou c'est un monument. Quelquefois, l'œuvre existe très peu. Lorsque vous, lorsque vous produisez, je veux dire, lorsque vous dansez, la danse elle-même n'a pas beaucoup d'importance, sinon pour vous, mais elle a de l'importance en tant qu'elle produit de l'effet sur les spectateurs. Donc ils produisent des peintures, des romans, des poèmes, des monuments, des danses, des symphonies, etc., etc. J'insiste là-dessus parce qu'on a tendance trop à voir l'art comme disons, seulement certaines formes d'art. Certaines formes d'art, et je dirais, c'est des formes d'art qu'on privilégie à un moment donné. C'est pas toujours pareil dans l'histoire de l'art. Il y a des moments, aujourd'hui, quand on parle de l'art contemporain, on pense tout de suite, on pense à peu près inévitablement à l'art des musées. Bon, mais au 19e siècle, par exemple, dans les années 1830-1840, si vous lisez Balzac, l'art suprême, c'était la poésie. C'était pas la peinture, c'était la poésie. Donc il faut toujours avoir une idée très vaste de l'art, non seulement dans notre société, mais aussi à travers les différentes sociétés. Donc ils produisent des objets extrêmement divers, peinture, roman, poème, monument, danse, symphonie, etc. Et ces objets ont des réalités différentes. À l'usage des philosophes que je dis ça. Oui, ça.
J'ai mis le point dessus là. Non,
mais ça va bien parce que là il y a toujours des piles et à la fin il n'y aura plus de piles. Ces objets ont des réalités différentes. Ça, je dis ça surtout pour les philosophes parce que c'est un problème qu'on appelle un problème, le mot fait peur, souvent un problème d'ontologie. C'est-à-dire que les objets qui sont produits par les artistes n'ont pas le même degré de réalité, ils n'ont pas le même degré d'existence. C'est-à-dire que certains objets sont uniques, par exemple, une peinture, une construction, une danse. Vous dansez, puis c'est fini. Hein. Vous peignez une peinture, et puis elle est unique. Un architecte construit un monument, il est unique. Mais d'autres sont reproductibles. D'autres œuvres sont reproductives, moyennant ce qu'on appelle une exécution ou une interprétation. Donc, par exemple, un musicien écrit une partition et puis il va y avoir ensuite des concerts qui seront donnés et chaque chef d'orchestre vous donnera une autre interprétation et pourtant ça sera la même symphonie. Si vous écoutez la 9e symphonie de Beethoven, chaque fois que vous l'écoutez, c'est une interprétation moyennant tel chef d'orchestre qui peut s'appeler... Leonard Bernstein, Carl Böhm, etc., Herbert Solkarayan, peu importe. Hein, je veux dire, c'est une interprétation, mais l'œuvre est à la fois unique. C'est Beethoven qui a conçu la partition, mais en même temps, chaque fois qu'on la joue, c'est une version de l'œuvre. Et puis, il y a d'autres qui sont indéfiniment reproductibles. On n'a même pas besoin d'une interprétation. Un livre, par exemple, le texte d'un écrivain, à supposer que ce soit le texte définitif, parce que l'on s'aperçoit qu'en général, il n'y a pas beaucoup de textes définitifs, et les écrivains ont passé leur temps à faire des corrections, il y a eu des copies, etc. Mais le texte définitif d'un livre, ben on le reproduit sous toutes les formes de papier, etc., sous une forme électronique aussi, peu importe, on peut le reproduire de manière indéfinie. C'est vrai pour de la musique synthétique aussi, pour de la musique techno, vous la reproduisez, s'il y a un enregistrement, vous le reproduisez ensuite de manière indéfinie, sans perte, sans perte, alors que dans le cas de la symphonie, vous pouvez plus ou moins bien l'interpréter. Alors j'en viens maintenant plus à mon sujet, ça c'était le positionnement, eh bien les œuvres produisent des effets sur nous. Hein, nous qui sommes les spectateurs, les récepteurs, les destinataires des œuvres. Alors j'ai essayé d'énumérer ces effets émotionnels, cognitifs, moraux, politiques, esthétiques. Je vais vous donner des exemples de tout ça. Hein. J'ai choisi dans ma documentation, j'aurais pu choisir d'autres choses. Hein. Chaque fois j'aurais beaucoup d'exemples à vous donner, mais j'en choisis certains. Alors, des effets émotionnels. Je commence par des effets émotionnels. Ça, c'est une photo d'un écran vidéo que j'ai pris, je crois, à la Biennale de Venise, mais j'aurais pu le prendre dans n'importe quel musée. C'est C'est une vidéo d'un artiste américain qui s'appelle Bruce Nauman et qui enregistre des personnes disant « I love you » ou « I hate you »,« Je vous aime » ou « Je vous hais ». Mais indéfiniment, « I hate you »,« I hate you »,« I hate you », etc. Et alors, d'une part, ça vous fait quelque chose émotionnellement, et à la fin, c'est horripilant. Hein. C'est ce que j'appelle ce contenu émotionnel. Hein. Une œuvre horripilante, elle vous produit quelque chose. Une œuvre qui vous charme et qui vous bouleverse, elle vous produit aussi une émotion. Hein. Une œuvre qui vous ennuie, elle vous produit quelque chose aussi. Hein. Il y a de la musique, il y a beaucoup de musique répétitive. Moi, j'aime bien la musique répétitive. Mais quand vous entendez Philippe Glass pendant une heure et demie à peine changer le motif musical, ça vous met dans un état, ça vous met planant, mais en même temps ça peut aussi vous ennuyer à mourir en disant mais c'est toujours pareil, ça tourne en rond. Voilà. Donc l'effet émotionnel, les œuvres produisent l'émotion. Ça vaut pour la musique, ça vaut pour le cinéma. Vous êtes au cinéma et vous sortez en pleurant, je ne sais pas si c'est encore possible aujourd'hui. Mais l'histoire était absolument triste. Vous lisez un roman et puis ça vous met en colère, etc. etc. Ça, c'est produire des émotions. Je donne d'autres exemples d'effets émotionnels beaucoup plus brutaux. Ça, c'était l'exemple de ce qu'on appelle dans les années. Ça existe encore d'ailleurs. Ce qu'on appelle dans les années 70 le body art. C'est-à-dire où l'artiste ne produit pas d'œuvre, mais produit des émotions. Donc. À droite, vous avez deux performeurs, Marina Abramović et son compagnon de l'époque qui s'appelait Oulai, qui se mettaient tout nus dans l'entrée dans le passage d'un corridor de musée, et ça faisait quelque chose aux spectateurs. C'est vrai qu'ils étaient obligés, pour circuler dans le musée, de passer entre deux, dans une sorte de porte vivante. Ça crée une émotion. Et puis à gauche, c'est une photo tirée d'une action d'une artiste française qui s'appelle Gina Pan, qui, elle, s'agressait. Bon, là, vous voyez, elle se coupait superficiellement avec des lames de rasoir, il y avait du sang qui coulait, mais les performances étaient assez impressionnantes. Le jour où elle avait mangé de la viande crue et puis revomir, remanger la viande crue, etc., jusqu'à en être absolument malade, c'était assez éprouvant comme performance, qu'on appelle ça la performance. Ça produit un effet émotionnel. Hein. Mais c'est pas, je dirais que ce que je vous signale là, c'est ça a l'air, c'est dégoûtant, mais quand vous voyez certains tableaux de martyrs, ils sont réellement dégoûtants aussi. Bon, il se trouve qu'on est ou plus habitué, ou bien il y a des méthodes artistiques pour atténuer le message ou le rendre acceptable. Mais là encore, c'est produire des effets émotionnels. Produire des effets cognitifs. Ce que je vous dis là, c'est que l'art, ça nous fait souvent connaître quelque chose. Alors là, j'ai pris un tableau que j'ai pris dans une pinacothèque italienne. J'ai passé beaucoup de temps en Italie l'année dernière et j'ai photographié des centaines de tableaux. Ils sont tous pareils, hein, ils sont tous gros, mais ils sont tous pareils. Bon, ben là, c'est une nativité, c'est une vierge à l'enfant avec des seins qui devaient être des seins qui doivent avoir une importance locale, je ne sais plus dans quel village c'était. Visiblement, si vous voulez, c'était un tableau qui était d'abord destiné à enseigner la légende du dessin du village. Hein, du village, je crois que ça devait être à Lucignano, quelque chose comme ça, un petit village, qui est une pinacothèque, il y a 10-12 villages, c'est un petit musée, il y a 10-12 tableaux. Eh bien, dans ces tableaux, c'est un tableau du 15e siècle, hein, ça, dans ce tableau, expliquait aux gens qui était le saint, hein, qui était le saint de référence de la paroisse. Beaucoup de l'art religieux était à fonction pédagogique, d'enseignement. Parce que réfléchissez à une chose toute bête, c'est que c'est une époque où il n'y avait pas d'image, et où beaucoup de gens en plus étaient illettrés. Il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de photo, il n'y avait pas de télévision. Donc la peinture servait de support à l'enseignement religieux, d'où la fonction cognitive. Et souvent aujourd'hui d'ailleurs, quand on n'a plus le suivi, quand on n'a plus le suivi du commentaire religieux, on ne sait plus de quoi il s'agit. Si vous voyez, si vous n'êtes pas, vous n'avez pas un peu de culture chrétienne et que vous voyez une annonciation aujourd'hui, la plupart des gens se disent qu'est-ce qu'elle fait cette jeune fille avec ce type qui a des ailes et puis ce oiseau qui arrive de son milieu. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bon, mais ça servait à expliquer aux gens ce que c'était que l'annonciation, les passages de l'évangile correspondants. Autre effet cognitif, ça c'est quelque chose que j'ai, c'est une petite carte postale que j'ai prise, c'est du 12e siècle ça. Ça, alors là c'est encore plus primitif comme effet cognitif, c'est pour expliquer le martyr d'un saint. Alors on l'a scié, on en a un autre qu'on a bouilli, il y en a un autre qu'on lui a arraché les yeux, il y en a un troisième on l'a battu avec des bâtons, un quatrième on l'a battu avec des bâtons. Bon, c'est chaque fois, à fonction cognitive, ça raconte le martyr de... Il se trouve qu'en plus c'est beau, ça nous plaît, mais l'effet esthétique n'est pas premier. Beaucoup d'art n'a pas du tout une fonction esthétique. Alors, j'ai pas eu le temps, j'ai des problèmes d'ordinateur hier soir, j'aurais voulu vous montrer une peinture très figurative du XVIIe siècle, parce que à l'époque, la peinture était considérée comme une forme de connaissance, comme une science. Elle c'était la manière de bien montrer le monde tel qu'il était ressemblant. Là, c'est pas tout à fait le même sens de la cognition, mais pendant très très longtemps, la peinture a été une des sciences, une science de la représentation, puis ensuite elle est devenue plus une science de une activité pour le plaisir. Effet cognitif, je prends une chose beaucoup plus récente, ça c'est une peinture de Boris Stasinski, qui était un peintre français qui est mort il y a d'ailleurs pas tellement longtemps, qui avait été à Buchenwald dans un camp de concentration, et il a peint le déchargement des cadavres morts pour avant de mettre au four crématoire ou je sais pas quoi. Donc, je veux dire que là, c'est à fonction cognitive. Alors bien sûr, c'est aussi pour dénoncer, mais c'est pour dire c'était comme ça. Il y a la correction de l'art, il y a les nuances qui apportent l'art, mais c'est un témoignage, c'est une fonction cognitive de l'art. Alors les effets moraux, j'aurais pu mettre le peinture précédente, hein, regardez ce que c'était que les camps de concentration et indignez-vous. Là, c'est un tableau de Greuze, tableau du 19e siècle, du 18e siècle, c'est le père qui est mourant et donc une scène de d'union familiale, de transmission. C'est une scène édifiante, c'est une scène moralisante, c'est une scène édifiante, et beaucoup d'art a une fonction morale. Si j'avais, si mon scanner avait mieux marché hier soir, je vous aurais mis dans une statue d'ouvrier, de mineur dans la sculpture réaliste socialiste des pays ex-soviétiques, eh bien c'était aussi des leçons de morale. Voilà ce que c'est qu'un travailleur émérite, voilà ce que c'est que quelqu'un qui est un homme de marbre et un héros de la construction du socialisme. Ça c'est des effets moraux. Et puis il y a des effets moraux qui sont aussi des effets religieux. J'ai photographié au printemps dernier, c'est un fameux tableau une fresque de Piero della Francesca, c'est la Madonna del Parto, c'est-à-dire une vierge enceinte. C'est assez rare qu'il y ait des vierges enceintes, qu'on montre des vierges enceintes, et c'est à la fois la pureté, il y a tout là, il y a la leçon religieuse, la Vierge a été la Sainte Vierge. Vierge Marie a été enceinte du Christ, même si elle l'a conçue de manière non charnelle. Bon, d'autre part, elle est une leçon de pureté, de moralité, d'intégrité et aussi d'humilité, puisque c'est la mère de Dieu. Alors j'ajoute que ne riez pas trop, mais ça avait aussi une fonction cognitive. Ça avait une fonction cognitive. Parce que les historiens de l'art qui ont beaucoup travaillé sur ces objets se sont rendus compte qu'à l'époque, au XVe siècle, On invente la perspective. On est en train d'inventer la mode de représentation des objets dans l'espace. Et que la perspective était vue vraiment comme un progrès considérable pour bien représenter les choses exactement. Et les gens utilisaient ces tableaux pour faire du calcul mental de capacité. Hein, disons, du genre, il tient combien de litres de vin sous la robe de la Vierge. Combien et quel est le volume qu'il peut y avoir sous le dais. Ça faisait partie du plaisir que les gens prenaient à voir ces tableaux, de se faire des sortes de devinettes sur quelle est la contenance de tous ces volumes, vous voyez. Donc ça avait un petit côté cognitif aussi. Bon, des effets politiques, apporter une contribution à la société, ça c'est un petit extrait que j'ai photographié d'un tableau, c'est un morceau, c'est une immense scène de la vie humaine, ça représente la société humaine, avec toutes les formes, la prospérité, l'importunité, le souci, c'est tout en latin, les gens qui sont infortunés, c'est une sorte de tableau de l'existence humaine, avec une valeur morale, une valeur politique, mais ça montre, je dirais, en fait, la comédie humaine, en quelque sorte. Effets moraux et politiques, j'ai voulu, je mélange des choses anciennes et puis des choses beaucoup plus récentes. Ça, il y a trois choses là-dedans. Il y a, du côté gauche, c'est deux vues du même véhicule. C'était un véhicule pour sans-abri que, en 1988, a conçu l'artiste, parce que c'est un artiste, Christophe Vodichko. Et puis en bas à droite, c'est le plan qu'il avait fait pour que vous voyez comment ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup de SDF dans New York. Il s'était dit, à la fois par provocation, en même temps, c'était un message politique, de provocation, hein. Au fond, si on améliore, au lieu d'attendre la révolution, si on améliorait la condition de vie des gens qui vivent dans la rue. Donc moi, je suis designer, je vais leur inventer un véhicule où ils pourront vivre dans la rue. Vous voyez, un véhicule qui est extensible, on le voit dans l'image en bas à gauche, qui est extensible, où on peut dormir, où on peut se laver, où on peut déféquer, hein, ça se voit dans la tout à fait en bas. On peut y garder un certain nombre de propriétés, vous savez que le peu que les SDF ont, ils ont beaucoup de mal à ne pas se le faire voler. Et il avait créé deux ou trois de ces véhicules. Ces véhicules n'ont jamais... Il y en a un qui a été volé, je pense, j'espère, par un SDF, et puis il y en a deux qui ont été achetés par des musées. Alors là, la provocation est énorme, parce que qu'est-ce que ça peut faire dans un musée, ça? C'est une sculpture, oui, c'est une sculpture provocante. Et j'ai mis en haut à droite ce qu'ont fait les Don Quichotte fin 2006, parce que c'est avec une sorte de parenté avec ce qu'avait fait Christophe Vodichko, et dans l'action des Don Quichotte, des enfants de Don Quichotte, il y avait à l'évidence un caractère esthétique très prononcé, c'est-à-dire toutes les tentes étaient pareilles, elles étaient mises dans un certain ordre, il y avait une volonté esthétique, mais pour faire passer le message politique. Alors puis j'en viens aux effets esthétiques. Alors, les effets esthétiques, je dirais que c'est ceux qu'on ne peut pas qualifier autrement. C'est ce qui reste quand on a enlevé les effets émotionnels, les effets cognitifs, les effets moraux et les effets politiques. Hein. Qu'est-ce qui reste dans une œuvre d'art? Eh bien, il lui reste sa capacité esthétique. Alors ça, c'est une très mauvaise reproduction d'un tableau qui est somptueux. C'est les Demoiselles d'Avignon de Picasso. Bon, là, c'est une scène, dit-on, de bordel. Les Demoiselles d'Avignon, c'était les demoiselles d'un bordel de Barcelone dans la rue d'Avignon, à la calle d'Avignon. Bon, il utilise des formes qui sont des formes de la sculpture, celto-ibérique. Il n'y a pas de message politique, il n'y a pas de message, même pas de message de provocation. C'est un message formel, hein, c'est un somptueux tableau, comme vous le voyez. Il est beaucoup, il a été aplati par la production. Il est beaucoup plus rectangulaire que ça. C'est un somptueux tableau. Le message cognitif, à mon avis, il n'y en a pas. Le message émotionnel, oui, mais c'est un message d'émotion de l'art. On ne nous demande pas de trouver ça dégoûtant ou enthousiasmant. Le message moral, je pense qu'il n'y en a pas non plus, et le message politique, pas non plus. Donc c'est ce que j'appelle l'effet esthétique. Alors je vous montre des effets esthétiques. Là, pour ceux qui sont bons, ce sera un peu plus difficile à voir. Mais les effets esthétiques, mais cela dit, le PowerPoint, je le mettrai sur le site, hein, donc vous pourrez y retourner. Ça, c'est des effets esthétiques beaucoup plus récents. D'œuvres récentes liées à ce qu'on appelle des installations. C'est-à-dire que là, l'objet compte pas beaucoup, ce qui compte, c'est l'effet que ça fait. Alors, en haut à gauche, bon, il faudra que vous le regardiez sur Internet, pour les gens du premier rang, c'est un arrangement d'objets, ça s'étend sur une dizaine de mètres, extraordinairement un chaos d'objets, un désordre noir, et c'est. Je suis désolé de dire ça parce que ça peut être choquant. Ça s'appelle, c'est un artiste qui est mort il y a deux ans, qui était jeune, Jason Rhodes. Ça s'appelle le théâtre qui est dans mon sexe. Tout le théâtre de fantasme qui est dans mon sexe, hein, en quelque sorte. En dessous de quelque chose de beaucoup plus. Un effet esthétique beaucoup plus banal, c'est-à-dire on aime tous voir des lucioles, des petites lumières au-dessus de l'eau. C'est une artiste que j'appelle, qui s'appelle Kusama. En haut à droite, c'est une installation lumineuse. Il y a juste un projecteur lumineux, puis vous entrez là-dedans. Je ne peux pas qualifier ça autre chose que d'effet esthétique, si vous voulez. Je ne vois pas ni la leçon morale, ni la leçon politique, ni la portée cognitive, ni la portée émotionnelle. C'est juste pour avoir le plaisir, si vous voulez, d'être dans ce faisceau de lumière. Et c'est de Anna Veronica Janssens. Et puis, en dessous, c'est deux extraits d'une vidéo monumentale de personnes nues recevant de l'eau, une sorte de baptême, en quelque sorte. De l'artiste américain Milieu. C'est ce que j'appelle les effets esthétiques. Alors, je vous donne d'autres. Je vous donne d'autres effets esthétiques qui ne sont pas liés à des œuvres d'art. C'est les effets esthétiques du design, de la mode, du glamour, de tout ce que vous voulez. J'avais pris un numéro de Elle, je crois le Elle du 50e anniversaire, et puis j'avais photographié des choses dedans. Donc vous voyez, il y avait quelque chose sur les formes du glamour, il y avait les effets esthétiques en cuisine, hein, et en pâtisserie, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'esthétiques culinaires. Bon, du design pour un capot de je ne sais quoi. Excusez-moi, j'ai oublié de faire. Vous connaissez ça, c'est mort. Voilà, vous connaissez ça aussi bien que moi, mais c'est pas qui fait. Un capot pour je ne sais quoi, peut-être pour je ne sais quoi, et puis le design d'une salopette sur un fond modèle. Alors, ces effets, ils opèrent, ces effets opèrent de diverses manières. J'essaye d'aller un peu plus vite là, parce que l'art ne nous prend pas, nous ne rencontrons pas l'art dans la même situation. C'est-à-dire que parfois, ces effets ils s'adressent à nous de manière isolée. Quand vous lisez un livre dans votre coin ou dans un train, dans un compartiment de train, si vous êtes directement en contact avec l'effet de l'art, quand vous êtes fermé dans votre écoute de baladeur, c'est pareil. Quelquefois, les effets nous arrivent en groupe, quand vous allez à plusieurs au musée, quand vous allez au cinéma, quand vous avez un concert de musique classique ou un petit concert avec une assistance réduite. Quelquefois, il y a des masses de gens, des masses d'individus. Pensez aux très grands concerts de pop music, hein, par exemple, que je vous donnerai une image après. Et puis, quelquefois, les œuvres d'art nous touchent dans des. Sous forme de masse virtuelle, c'est-à-dire tous ceux qui téléchargent telle musique. Vous ne les connaissez pas, mais en fait vous vous réunissez par ces goûts-là, hein. mais tous ceux qui téléchargent de telle et telle manière un objet. Alors, je passe là-dessus parce que ça me retarderait, mais j'indique simplement, vous le verrez si vous consultez ensuite le PowerPoint, c'est que du point de vue de la théorie de l'art, il y a là derrière des distinctions très importantes. C'est la distinction que j'ai déjà abordée entre l'œuvre unique et l'œuvre reproductible. la distinction entre les arts et les arts de masse. Je crois que ça, c'est une grande nouveauté de notre époque. C'est que depuis en gros un siècle, hein, un gros siècle même, hein, il y a des arts de masse, alors qu'avant les arts n'étaient pas des arts de masse, ou disons que même s'ils s'adressaient à tout le monde, le processus pour qu'ils touchent tout le monde était très 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 long. Pensez à une chose, je prends un exemple dans la musique, jusqu'au 19e siècle, il faut que chaque ville ait un petit opéra ou une petite salle de concert pour que de temps en temps il y ait dans le cadre d'une tournée il y a un orchestre qui vienne et qui va vous jouer une symphonie ou les quatre saisons de Vivaldi ou je ne sais quoi. Aujourd'hui vous avez par exemple ce qu'on appelle le concert du Nouvel An le 1er janvier à midi qui est en direct depuis l'opéra de Vienne et qu'est-ce que vous avez? Vous avez des centaines de milliers de spectateurs, même probablement pas loin du milliard, qui écoutent au même moment un concert. C'est ça qu'on appelle le phénomène des arts de masse et qui a été rendu possible par les technologies de communication, de reproduction, de diffusion, etc. etc. Et puis, la dernière distinction, mais qui est extrêmement difficile à manipuler, même si elle correspond à quelque chose, c'est la distinction entre les arts et la culture, parce que les arts, c'est, je dirais, toujours quelque chose qui vient de la culture, avec une élaboration spéciale, tandis que la culture, c'est en fait l'ensemble des relais symboliques qui nous mettent en rapport avec le monde et avec les autres. Je donne un exemple, si vous voulez, de différence entre les arts et la culture, au quotidien, c'est si nos vêtements au quotidien, ils font partie de la culture. C'est-à-dire que nous sommes habillés d'une certaine manière et nos modes d'habillement nous mettent d'abord en rapport avec le monde. Ils nous protègent du froid, de la pluie, des intempéries, ou nous permettent de faire du vélo, etc. Puis ils nous mettent en rapport les uns avec les autres, puisque nous sommes habillés, en gros, sauf les cas d'excentricité particulière, nous sommes habillés à peu près comme on s'habille dans l'air du temps, en quelque sorte. Bon, mais si vous avez une élaboration spéciale du vêtement, ça s'appelle par exemple la très haute couture ou la mode, quelque chose qui d'ailleurs à la limite ne sera même pas portable comme vêtement, eh bien à ce moment-là vous allez tomber dans le domaine de l'art. C'est ce que j'appelle l'art comme élaboration spéciale par opposition à la culture comme ensemble de relais symboliques. Il y a toujours des moments où quelque chose dans la culture peut faire l'objet d'une élaboration extrêmement compliquée et ingénieuse et devenir de l'art. Alors ça peut devenir de l'art majeur comme ça peut devenir rester un art mineur. Si vous prenez les recettes de cuisine par exemple, vous pouvez très bien broder, élaborer sur les recettes de cuisine, devenir un très grand chef, presque un artiste. Mais jusqu'à nouvel ordre, je ne considère pas que les cuisiniers soient des artistes qui rivalisent avec des architectes, par exemple. Hein. Mais, bon, qui sait, ça pourrait changer un jour. Au dernier Documenta en Allemagne, une exposition immense qui a lieu tous les 5 ans, parmi les représentants de l'Espagne, on avait choisi un cuisinier qui fait qui évidemment n'exposait rien. Son exposition, sa participation à la manifestation consistait à ce que deux visiteurs par jour étaient tirés au sort et puis on leur proposait un billet d'avion, un voyage, un repas vers Rosas, un restaurant de Ferran Adrià, et puis ensuite on les ramenait en Allemagne et ils avaient eu une partie de leur expérience esthétique. Bon, alors maintenant je vais vous parler donc des effets sociaux de l'art. Proprement, donc je continue, que font les artistes du point de vue social, j'approfondis en quelque sorte, je précise mon enquête, eh bien les effets sociaux de l'art, ils ne sont pas innombrables, mais ils sont assez différents. Il y a d'abord des effets de renforcement du lien social. Ensuite, il y a des effets d'anticipation d'un monde nouveau, et ensuite des effets de divertissement, éventuellement d'endormissement, mais peu importe, pas forcément, tout divertissement n'endort pas, hein. Et puis des effets de réflexion du fonctionnement social, y compris avec des éléments de réflexion critique, la critique de la société. Alors, les effets sociaux de l'art comme renforcement du lien social. Comment, le lien social, ça consiste pour les individus à avoir quelque chose en commun. Dans une société, il y a des choses en commun qu'on partage. Alors, qu'est-ce qu'on partage ? On partage des émotions. Donc, l'art peut servir à faire partager des émotions. C'est très souvent le cas. Il peut créer un environnement commun. Ça, vous allez voir que c'est, on y pense moins. Il peut contribuer à la construction du passé et il contribue aussi à la production d'identité. Là, je crois qu'avec ça, je vois à peu près toutes les fonctions de l'art dans le lien social. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que selon les types d'art et selon les époques, ce n'est pas les mêmes choses qui opèrent. Hein. Si vous prenez par exemple, pour ceux qui sont amateurs, la musique classique du 19e siècle, la musique symphonique du 19e siècle, la symphonie, si vous mettez les voix ensemble, la symphonie au 19e siècle, elle a beaucoup à voir avec la construction des identités nationales et elle a beaucoup à voir avec aussi le partage des émotions. Hein, les gens qui sont dans une salle de concert partagent la même émotion produite par la musique et souvent cette musique est une symphonique, est une élaboration sur des thèmes nationaux, hein, que ce soit les symphonies de Schubert ou que ce soit les symphonies de Dvorak. Ils puisent dans les airs de leur pays. Tout le monde a entendu, par exemple, c'est pas une symphonie, mais Ma patrie de Smetana, hein, ça puise dans des thèmes folkloriques, des chansons folkloriques tchèques, et ça les élabore musicalement. C'est un partage d'émotions, et ça peut même devenir quelquefois un signe de ralliement national. Donc, partage d'émotions, création d'un environnement commun, glorification et consolidation d'un passé, production d'identité. Encore une fois, toutes ces dimensions-là n'opèrent pas au même moment, hein, je veux dire, et pas de la même manière selon les formes d'art. Hein. Et il y a eu des. Dans vos cours de littérature, on a dû sûrement vous dire qu'au 19e siècle, par exemple, Victor Hugo, c'est le poète national. C'est le poète national. La poésie de Victor Hugo est une poésie qui a contribué à former presque le tempérament de tous les Français. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, et ça mène jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et les gens ont appris les poèmes de Victor Hugo à l'école. Ça fait partie de leur patrimoine commun, de leur patrimoine émotionnel, de leur patrimoine artistique et de leur patrimoine identitaire. Alors, partage d'émotions, ça j'ai pris, c'est mauvais, j'ai piqué ça sur Internet, mais ça ne devait pas être beaucoup mieux ce moment. C'est un énorme concert des Rolling Stones, hein, je veux dire. Donc, vous avez 80, 100 000 personnes. Vous avez des éclairages, vous avez bien sûr la musique, vous avez quelquefois des vapeurs qui sont projetées, partage d'émotions. Vraiment, on met les gens dans une situation où le type qui ne partagerait pas l'émotion dans un concert comme ça, il se sentirait mal à l'aise et il serait assez angoissé. Hein. Le type qui irait là contre son gré. Et je vous indique une chose, j'ai un jour trouvé une photo, ça n'a rien à voir avec ça, une photo très très émouvante du lancement d'un cuirassier d'un navire de la flotte nazie dans les années 1930. Donc, vous savez, quand on lance un bateau à l'eau, c'est une cérémonie. C'était Hitler qui présidait la cérémonie, et puis tous les ouvriers, les personnalités, tout le monde est là pour voir le bateau qui glisse lentement et qui va entrer dans l'eau. Or, cette photo était absolument fascinante parce que, je ne l'ai pas trouvé tout seul, il a fallu que quelqu'un me signale, c'est qu'on voyait tous les ouvriers étaient comme ça en faisant un salut hitlérien, sauf un qui était comme ça. Sauf un qui était les bras croisés, et qui visiblement appréciait pas du tout, partageait pas du tout l'émotion du jour. Hein. Mais c'est ce qu'il appelle partager l'émotion. Et visiblement d'ailleurs, il devait être protégé par ses copains, parce que pour qu'il ose faire ça, il fallait qu'il soit plus courageux que ses copains, mais que néanmoins ses copains ne soient pas des dénonciateurs. Bon, partage d'émotion, partage d'émotions, bon, un et d'identité, ça c'est l'immense tableau qui est au centre d'art Reina Sofia de Madrid, après avoir été à New York, c'est le Guernica de Picasso. C'est un tableau qu'il a peint au moment du bombardement par les avions allemands pendant la guerre d'Espagne du village basque de Guernica. Ce tableau a bouleversé les foules, mais ce tableau est devenu aussi le signe de la résistance espagnole, l'identité espagnole. Picasso n'a jamais voulu que le tableau revienne en Espagne tant que Franco était mort, et quand il était donc en dépôt au musée d'art moderne de New York, et quand Franco est mort, le tableau est revenu, et c'est quasiment un drapeau ce tableau. Partage d'émotions et construction d'identité. Alors, la création d'un environnement commun, je vais aller vite pour finir, création d'un environnement commun, on n'y fait pas assez attention, mais c'est vrai que l'art sert à nous construire un environnement au sens, non pas au sens écologique, mais au sens de quelque chose qui nous entoure, que nous partageons. Et là-dessus, il y a une forme d'art, il y a deux formes d'art qui sont aujourd'hui absolument très importantes, c'est le design qui construit un monde commun, et j'ajouterais le design sonore, qui est quelque chose qui est aujourd'hui en train de beaucoup se développer. C'est-à-dire que votre gare n'est pas encore rénovée, mais quand vous allez dans les gares rénovées, il y a eu tout un travail de remise en état et de création d'un design, le design contemporain, etc. Mais en même temps, il y a des sociétés d'artistes spécialisées auxquelles la SNCF achète du design sonore, c'est-à-dire des sons d'ambiance qui créent un monde commun. Un monde commun qui est plus plaisant, plus agréable, moins stressant, etc., etc. C'est ce que j'appelle l'environnement commun. Ça, c'est un magasin Armani à Tokyo, vous voyez. Et un autre exemple, ça, c'est aussi un magasin qui est à Paris, un magasin très, très branché de design, chez Colette. Voilà ce que c'est que créer un environnement pour vendre trois fois rien, hein, pour vendre deux, trois fripes, etc. On crée un environnement commun. Alors, glorification d'un passé, ben, je vous ai montré Guernica, le Goya du 13 des Maillots, qui célèbre l'insurrection de 1807, c'est aussi glorification d'un passé, construction de la mémoire historique, construction de l'identité espagnole. Glorification d'un passé, ça je vous ai pris, ça c'est une photo que j'ai prise au musée de Rouen d'une fresque, c'est une fresque d'un grand artiste officiel du 19e siècle, c'est s'appelle Pierre Puvis de Chavannes, qui a fait d'énormes décorations célébrant le monde antique, le savoir, la connaissance, etc. Et qui a en grande. C'est aussi un peu du design, hein, parce qu'il y en a plein à la Sorbonne, il y en a plein dans les musées, c'était un décorateur aussi. Et puis production d'identité. Alors, ça, malheureusement, il n'y a que des gens devant qui le verront, mais ça, je trouve que cette chose est absolument très intéressante. C'est à Saint-Gilles-du-Gard, c'est le pied d'une colonne. Du pied d'une colonne. Les gens de l'époque ont sculpté un corps écrasé au pied de la colonne. Et en fait, on pense que c'est un ouvrier qui est mort pendant la construction de l'église et que ses compagnons ont voulu marquer l'événement, marquer le souvenir. Et je dis production d'identité. C'est très intéressant quand vous voyez ça, c'est très émouvant de voir au pied de la colonne, juste cette trace d'un corps écrasé qui nous renvoie à l'identité de ces gens anonymes qui construisaient ces églises, ces tailleurs de pierre, il y avait beaucoup d'accidents du travail. Je mets ça dans la production d'identité. Production d'identité, ça, c'est une peinture aborigène australienne. Jusqu'à il y a 20 ans, les aborigènes australiens faisaient leur peinture dans le cadre. Pour eux, ce n'était pas tellement de l'art. C'était des rituels religieux. C'était des peintures faites sur sable avec des pigments. Et puis, dans le cadre de la revalorisation des aborigènes et de la redynamisation des réserves d'aborigènes, quelqu'un a eu l'idée de les faire peindre sur toile. Et ça a déclenché toute une production artistique qu'on appelle maintenant l'art aborigène australien, qui est très recherché. Ça a changé complètement la vision que les gens avaient d'eux-mêmes et qu'ils donnaient à l'extérieur, des productions d'identité. Hein. Et c'est un art qui est qui est aujourd'hui très recherché et qui a beaucoup de valeur. Alors parfois aussi, là, c'est l'anticipation d'un monde nouveau. C'est surtout dans l'art du XXe siècle qu'on a eu ça, avec ce qu'on a appelé les phénomènes des avant-gardes. Les avant-gardes essayaient de préfigurer le monde qui allait venir. Bon, ça c'était un drôle de monde, puisque c'est peint par Fernand Léger en 1917, pendant la guerre. C'est des soldats jouant aux cartes. Et quand je dis préfiguration d'un monde nouveau, c'est ce que voit Fernand Léger en 1917, c'est qu'on va vers un monde totalement mécanisé, avec un homme totalement mécanisé, dans un monde totalement industriel, où tout est en forme de tubes, de cônes et de pièces mécaniques. C'est ça, art et avant-garde, préfiguration d'un avenir, y compris d'un avenir qui n'est pas radieux du tout. Art visionnaire, alors vous avez beaucoup de formes d'art qui sont visionnaires. Le surréalisme a été visionnaire, beaucoup d'art du XXe siècle a été visionnaire, mais ça c'est une peinture italienne du XVe siècle représentant la ville idéale, c'est l'utopie de la ville idéale. Et curieusement, vous avez quelques petites villes qui ont essayé de se transformer comme ça en Italie. Il y a un pape qui est issu d'un petit village. Un pape s'appelait Pi, je ne sais plus comme le quel numéro, qui a transformé son village natal, Pienza, en une sorte de ville idéale. C'est assez cocasse à visiter parce que c'est quand même un petit village, mais les constructions du centre sont les constructions d'une ville idéale, c'est-à-dire la ville qui n'est pas du tout un bourbi, avec sans hygiène, sans air, etc. Alors, évidemment, l'art peut aussi servir à divertir et à faire oublier. Alors, quand je dis hédonisme, c'est donner du plaisir. L'art est aussi fait pour donner du plaisir. Il y a un penseur qui, au XIXe siècle, a beaucoup insisté là-dessus, c'est Schopenhauer. L'art, c'est à la fois le remède un peu au mal de vivre. Alors, hédonisme, là, je vous ai montré des peintures de Matisse, parce que Matisse, les peintures de l'année 1905-1906 de Matisse, Matisse est un peintre qui pense que l'art est fait pour donner du plaisir, mais un plaisir de qualité élevée, pas du tout un plaisir uniquement sensuel. Et par exemple, il disait qu'un tableau doit être comme un bon fauteuil dans lequel on peut se reposer et se détendre. La fatigue à Tahiti. Et éventuellement, il peut y avoir dans cet oubli des éléments de régression. Mais pas de régression au sens trop négatif, de régression tout simplement au sens où on revient à un état moins articulé, avec moins de soucis, moins d'angoisse, moins d'inquiétude. Ça c'est un tableau de Miro. Hein. Bon, dernier point, je termine là-dessus. L'art comme réflexion du fonctionnement social, eh bien effectivement, miroir de la société. Hein. Ça c'est une peinture d'un Congolais, Chéri Samba, un peintre contemporain actuel, qui reflète sa position invraisemblable d'être un artiste d'un pays émergent, mais en même temps un artiste qui est maintenant très reconnu, avec à la fois les grandes œuvres du passé, plus les œuvres de la tradition africaine. C'est le miroir de sa situation qu'il fait là. Contribution critique au fonctionnement social, c'est mon avant-dernière image. C'est un peintre qui était très proche du Parti communiste dans les années 46-50, les Fougerons, injustement oublié d'ailleurs, qui a été ce qu'on appelle le réalisme socialiste, très engagé du côté des soviétiques d'ailleurs. Et ça, c'est les Parisiennes au marché, hein, c'est-à-dire la misère des gens. Qui ne trouve pas à acheter des poissons, c'est 1948. Et l'art et l'idéologie de la société, je termine là-dessus. Ça, c'est une installation d'un artiste américain non-italien qui s'appelle Maurizio Cattelan. C'est Jean-Paul II, mythologie de notre époque, mais frappé par un événement naturel, c'est-à-dire par la chute d'une météorite. Hein, voilà. Alors, je m'en tiens là, hein, c'est un peu trop long, mais j'ai terminé, et maintenant on peut passer aux questions. Voilà.
Donc, pour les deux places qui ont une contrôle 13h, qui sont installées au fond, voilà. Prenez 5 minutes pour les autres, donc ben on a un petit quart d'heure, 20 minutes, on va faire comme ça. Ouais. Une vingtaine de minutes, on va laisser partir ceux du fond. TES2, TS3, donc, vous pouvez y aller. Pour les autres, on vous écoute. Voilà, on va pouvoir y aller. Donc, levez la main, je vous donne le micro. Allez-y. Pour vos questions.
C'est surtout important que vous osiez poser des questions, même celles dont vous n'êtes pas sûr.
D'après vous, est-ce que la photographie est un art?
Oui, à l'évidence, oui. On a mis très longtemps à l'accepter, parce qu'au début, on a cru que c'était juste une reproduction de la réalité, mais presque aussitôt, vous savez, c'est un bon exemple, je vais aller vite quand même là-dessus, mais c'est un bon exemple comment la culture se transforme en art. Au début, c'est une technique de reproduction, hein, mais presque aussitôt, les gens s'en emparent pour essayer d'élaborer là-dessus. Et de faire quelque chose d'artiste. Aujourd'hui, c'est vraiment de l'art. Mais là, c'est même plus de l'art au sens où c'est à plan égal avec la peinture, mais il faut qu'on va dire la même chose pour le cinéma. Vous avez des expositions de musées où on vous juxtapose un tableau, une photographie, et même quelquefois avec des écrans plats, un bout de film. Hein.
Je voudrais vous poser une question, parce que ça, vous pensez que c'est un art ou pas?
Est-ce qu'on peut tout déclarer comme étant de l'art? Enfin, par exemple, il y en a qui ont fait une toilette et qu'on dit c'est mon œuvre d'art. Enfin,
C'est une question tout à fait sérieuse, parce qu'aujourd'hui, notamment, une démarche forte du début du XXe siècle, c'était celle de Marcel Duchamp, qui a consisté à dire, je vais transformer n'importe quoi en œuvre d'art, mais à condition de suivre certaines règles de transformation. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il a fait la fameuse pièce de 1916, je crois, qui s'appelle Fontaine. C'est un urinoir renversé. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que lui, quand il faisait ça, il voulait en faire, si vous voulez, une sorte de défi au monde de l'art. Hein, c'était un défi au monde de l'art. C'était pour montrer. Et si je vous racontais toute l'histoire de la Bissotière, de Duchamp, vous seriez, ça nous prendrait pas mal de temps, parce que il n'est pas arrivé avec une Bissotière en disant c'est une sculpture. Il a fait des manigances pas possibles pour faire, pour présenter cette sculpture dans une exposition, et en plus la présenter dans une exposition où on ne refusait rien et où elle a été refusée. Hein. Vous vous rendez compte, et puis ensuite il a fait photographier par quelqu'un de connu qui était connu pour soutenir les avant-gardes, donc ça voulait dire si c'est photographié par ce monsieur tel, c'est vraiment de l'art. Ensuite il a publié des articles dans des revues sur la question. Il a vraiment beaucoup travaillé la question, c'est-à-dire vous ne pouvez pas faire accepter n'importe quoi comme de l'art sans certaines conditions. Par exemple, tout simplement, il faut que ça soit dans le musée. Moi, je connais, par exemple, je ne parle pas de Duchamp, mais je connais un artiste espagnol aujourd'hui qui fait surtout des conférences de sociologie. Et elles sont vraiment intéressantes. Notamment, il en a fait une que j'ai suivie, qui est sur la malaguenisation de Picasso et la picassisation de Malaga. Parce que vous savez, Picasso est né à Malaga, mais il y a vécu jusqu'à 4-5 ans, ou 6 ans peut-être. Mais Malaga, pour des raisons touristiques, a décidé de récupérer Picasso, a fait un musée Picasso, et aujourd'hui Malaga c'est la ville de Picasso. Alors qu'en fait, la vraie ville de Picasso, au départ, c'est plutôt Barcelone. Bon, et donc, il fait des conférences avec beaucoup d'illustrations, diapositives, sur comment Malaga s'est picassisé, et comment Malaga, donc, a revendiqué, quand il y a des plaques dans les rues, ici Picasso est allé à l'école primaire, etc. C'est tout juste, il n'y a pas des plaques, genre, ici il a pissé contre le mur, etc. Hein. Et puis en même temps, on a malaguéisé Picasso. C'est-à-dire, on a inventé un passé qui n'existe pas. Bon, peut-être que ça pourrait être un article sociologique, ce qu'il fait. Mais il fait ça dans le circuit artistique, comme un geste artistique. Et on l'accepte à certaines conditions. Donc, pratiquement tout. Mais simplement, ce qu'il faudrait voir, c'est que dans certains cas, c'est juste une provocation. Et dans d'autres cas, c'est pas juste une provocation. C'est qu'il y a il y a toujours des petits éléments esthétiques dans toutes les situations de la vie, qui fait que si on les regarde d'une certaine manière, elles peuvent paraître de l'art. Un soleil couchant, un coucher de soleil, c'est que les gens viennent voir comme une œuvre d'art, quasiment, dans certains endroits. Bon, bah, je veux dire, si vous le mettez vraiment, il y a des gens qui en ont fait des tableaux, si vous le mettez comme ça en scène, ça devient une œuvre d'art, alors que c'est pas une œuvre d'art. L'œuvre, c'est l'œuvre de la nature. Allez-y. Mais au fond.
Puisque une œuvre d'art n'a pas forcément d'aspect esthétique, il y a un message à faire passer. Qu'est-ce qui peut différencier une vraie œuvre d'art d'une œuvre, entre guillemets, médiocre?
Ah, alors, là, ce que vous posez comme question, c'est la question des critères de juger. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et ce qu'il faut voir, ce qu'il faut bien vous mettre dans la tête, mais ça correspondra à votre expérience, quand vous l'aurez, si vous suivez un peu le raisonnement, c'est premièrement, il n'y a pas de critère absolu. Il n'y a pas de critère absolu. Bon, évidemment, on peut toujours dire, il y a la Joconde, il y a les esclaves des Michel-Ange. Vous trouvez toujours dans votre vie des choses qui vont vous bouleverser énormément et qui vont bouleverser beaucoup de gens. Mais il y a les sept merveilles du monde, il y a les pyramides, il y a tout ça. Mais ce sont des classements qui sont quand même assez conventionnels. Quand vous faites la liste des chefs-d'œuvre de l'humanité, vous tombez sur un certain nombre de choses qui sont bien, mais c'est pas tout si bien que ça. Par exemple, pourquoi est-ce que dans un chien, la Joconde est l'objet d'un culte pareil? Moi, j'avoue que ça m'a... C'est plutôt que c'est devenu une sorte de lieu de pèlerinage. C'est devenu comme des reliques de saints. Hein. Mais la Joconde, les qualités artistiques de la Joconde, moi, il y a d'autres choses qui sont beaucoup moins reconnues du grand public, mais qui sont reconnus des connaisseurs. Bon, la chapelle du Carmine et de Masaccio à Florence, vous avez 200 visiteurs par jour, d'ailleurs ils sont filtrés pour réserver parce que c'est un lieu fragile, mais c'est à mon avis nettement plus beau que la Joconde. Bon, alors autrement dit, je veux dire, c'est assez relatif. La valeur des œuvres d'art, la valeur esthétique, hein, je ne parle pas de la valeur financière. C'est assez relatif. Mais cela dit, il y a des critères. Mais c'est des critères, d'abord, qui se forment et qui s'affinent au fur et à mesure que vous avez plus d'expérience, et c'est surtout des critères qui se forment et qui s'affinent, je dirais, au sein de petits groupes spécialisés. C'est-à-dire que vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. Quand, la première fois que vous écoutez de la musique classique, si vous êtes ému, bon, les valses de Chopin, vous entendez une fois quand vous avez 12 ans, les valses de Chopin, ça vous émeut jusqu'au fond du cœur, etc. Ensuite, si vous aimez la musique classique, vous allez en écouter de plus en plus. Et puis, arrivera un jour, assez rapidement d'ailleurs, vous me direz, oh, c'est quand même, c'était bien, mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus important dans la musique. Donc au fur et à mesure que votre goût va se former, vous allez évaluer différemment. De même que les gens qui collectionnent les œuvres d'art, ils reconnaissent tous que les premières œuvres qu'ils ont achetées, ça leur a bien plu, et ils y sont attachés sentimentalement, mais 20 ans ou 30 ans après, ils se rendent compte que c'était pas ça forcément qui les intéressait le plus. Donc il y a certainement des valeurs esthétiques, mais elles s'affinent au sein, dans l'expérience, et puis je dirais en plus au sein de groupes. Au sein de groupes. C'est-à-dire que j'ai eu une expérience très intéressante il n'y a pas longtemps. J'étais à un colloque et il y avait des gens qui étaient spécialistes du graffiti, des tags. Et j'ai découvert qu'il y a des revues spécialisées là-dessus, qu'il y a des codes à suivre et qu'il y a des œuvres qui sont considérées comme nettement meilleures ou des taggeurs qui sont plus célèbres que d'autres. Cela dit, ce monde reste, si vous n'êtes pas tagueur, ce monde reste, vous reste assez étranger, parce que tout ce que vous voyez, c'est ce que vous voyez le long des voies de chemin de fer ou des autoroutes, mais c'est un monde où il y a des critères esthétiques extrêmement, définis, et où il y a des œuvres qui sont considérées supérieures à d'autres. Simplement, comme les tagueurs, par principe, ne veulent pas rentrer dans le musée, ne veulent pas rentrer dans le monde de l'art, ils restent entre eux, et c'est entre eux que se font ces évaluations. Voilà.
Allez-y.
Paradoxalement, n'est-il pas à contre-courant ?
N'est-il pas ?
À contre-courant.
Mais comme miroir ?
L'art contemporain.
Bah, ça dépend. Alors, ça dépendrait de ce que vous appelez l'art contemporain et de ce que j'appelle l'art contemporain. Moi, ce que j'appelle l'art contemporain, c'est pas l'art du XXe siècle. Hein. Ce que j'appelle l'art contemporain, c'est l'art qui se fait depuis, en gros, les années 1990. Et mon idée, je l'ai écrit dans les livres, je vais pas encore le décrire, c'est qu'il y a eu un gros changement qui s'est passé à la fin des années 1990, il se passe un très gros changement et on quitte vraiment le XXe siècle, on entre dans une autre forme d'art. Donc, si vous appelez art contemporain l'art avant les années 90, l'art moderne, ce qu'on appelle plutôt l'art moderne, jusqu'aux années 1980-90, c'est un art effectivement qui est plutôt critique, qui est un reflet de la société, mais plutôt critique. Pensez à, je vous ai montré Fougeron, mais je pensais à Warhol. Warhol, quand il reprend des chaises électriques, ou des accidents d'automobile, ou des Marilyn, il en fait des icônes de la société, mais en même temps, il y a un aspect critique par la répétitivité, il y a une distanciation, hein. Même le pop art reste distancié. À partir des années, dans nos années actuelles, l'art est de moins en moins à contre-courant. C'est pas qu'il est intégré, c'est que tout simplement, c'est la société qui est continuellement autocritique, en quelque sorte, autocritique. Et d'ailleurs, vous en avez un signe qui est très très fort, à mon avis, aujourd'hui, c'est si vous regardez par exemple des questions comme. Les tests ADN, les exclus, les SDF. Ceux qui sont à la tête du combat, c'est des gens des médias, des gens du cinéma, des gens des vedettes, des people, comme on dit. C'est plus des artistes. C'est pour ça que je vous ai montré la diapositive avec Vodichko de 1988 et puis les Don Quichotte. Parce que les Don Quichotte, c'est du combat politique, et c'est de la com aussi, c'est un type de théâtre qui s'occupe des Don Quichotte. Et qui met tout ça en scène. Donc vous voyez, la société devient. Et si on allait le voir et qu'on lui dise c'est de l'art, je ne crois pas qu'il l'accepterait. Lui se voit comme un intervenant politique. Donc dans les années récentes, la société, elle ne devient pas plus de gauche pour autant, mais elle est continuellement autocritique. Hein, vous ouvrez RTL ou RMC, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est votre avis. Hein, c'est à tout un chacun qu'on demande l'avis. C'est plus aux intellectuels, si ils viennent dans les tribunes, c'est plus aux artistes, c'est aux gens des médias. C'est aux people, c'est aux journalistes, et puis c'est à monsieur et madame tout le monde aussi. Donc c'est en ce sens que je dis qu'on n'est plus un art qui est à contre-courant. Parce que la société n'arrête pas, elle en fait un business même de la critique. Hein, je veux dire, elle la commercialise, la critique.
tout le monde est critique aujourd'hui, c'est pour ça que d'une certaine manière. Et quand c'est vraiment critique, si c'était vraiment, vraiment critique, très durement, il y aurait des risques que ça tombe sous le coup de la loi. Vous voyez par exemple, aujourd'hui, vous avez il y a un sacré social, personne ne le met en cause, je ne le mets pas en cause non plus, mais c'est les enfants. Surtout non à la pédophilie, etc. Les quelques artistes qui se sont attaqués à ce tabou, ils ont été poursuivis, poursuivis judiciaires. Il y a plein d'œuvres du 19e siècle qui portaient sur les enfants, qui aujourd'hui mèneraient directement leurs auteurs en prison. Hein, à commencer par Lewis Carroll. Parce que Lewis Carroll, il n'écrivait pas seulement Alice au Pays des Merveilles, il faisait des photographies de toutes les fillettes de 6, 7 ans, 8 ans de ses amis, souvent passablement déshabillées, mais aujourd'hui, il rend tôt. Hein.
Dernière question, peut-être ?
Celle que je n'avais pas osé poser. Un jour, on va poser combien ça gagne un philosophe.
Bon, mais très bien, on vous remercie beaucoup.
Et ce phénomène que pendant certaines boîtes de nuit, on on danse plus quand c'est certains qui jouent, on les écoute. Ça redevient, ça devient du concert. Oui, il faut être sensible au fait que tu sais pas. Si j'ai pas là-dessus, c'est que c'est pas. Il y a des éléments de décadence, c'est sûr. Et puis il y en a d'autres où ça se. Ça reçoit autrement.
Merci.
C'est très curieux. On a des choses qui n'arrêtent pas de se déséquilibrer. Et à le pop au début, parce que les gens ne savent pas. Le pop, il n'est pas
né. Mais c'est un dinosaure,
en Angleterre. Et la première
exposition.
Moi, je suis marié en Angleterre.
Le pop,
donc on est
sur place. On est sur place. Comment?
C'est demain. Et le plus de dîner, les critiques, tout ça, c'est de la merde.
Mais c'est un succès.
De base, c'est connecté. Et là, ici, c'est une question. Pour moi, la culture de
le réseau. Voilà.
Tout à fait.
D'accord.
Parce qu'un jour on n'aura qu'un seul.